D'abord, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux pour écouter cette présentation. J'ai intitulé « Bruniquel, l'autre berceau de la préhistoire ». C'est un peu pour essayer de remettre les pendules à l'heure, parce que on dit toujours que la vallée de la Vézère, c'est le berceau de la préhistoire, mais je vais vous démontrer, preuve à l'appui, qu'il s'est passé autant de choses et aussi intéressantes à Bruniquel exactement en même temps. Et que donc, Bruniquel est le grand oublié, le grand perdant dans cette grande course à l'histoire de l'humanité qui s'est développée dans les années 1863-1864. Actuellement, la notion de préhistoire et d'homme préhistorique s'est admise par tout le monde. Tout le monde en parle, ça fait partie de la vie, pratiquement de la vie quotidienne. Ça a commencé très tôt par le célèbre roman de Rosny Aîné qui s'appelle La guerre du feu, et ses suites, Le félin géant et d'autres, qui ont été publiées dès les années 1911. Donc c'est popularisé aussi par la bande dessinée. Donc tout le monde connaît Rahan, le fils des âges farouches, c'est beau. Le cinéma, donc 1 million d'années avant Jésus-Christ, avec la superbe Raquel Welch. Et puis La guerre du feu aussi, la version cinématographique, là, qui est absolument extraordinaire. Le dessin animé, déjà Les pierres à feu dans les années 60. Et plus récemment, je ne sais pas si vous connaissez Silex and the City sur Arte, mais je vous le recommande, c'est un régal. Et même les livres pour enfants, donc maintenant c'est une chose qui est absolument acquise. Qui fait partie pratiquement de la vie quotidienne. Ça fait partie de la culture générale, de l'environnement. Il y a une préhistoire et des hommes préhistoriques. Mais finalement, c'est pas si évident que ça. C'est une discipline scientifique qui est très jeune, qui n'a que 150 ans, pas plus. Elle a été mise en évidence particulièrement en 1863 et surtout 1864, à la suite effectivement des travaux qui ont eu lieu conjointement et parallèlement dans la vallée de la Vézère et dans la vallée de l'Aveyron. Alors, la préhistoire, c'est pas évident. La préhistoire, ça désigne à la fois une discipline scientifique et en quelque sorte une période, on va pas dire de l'histoire puisque c'est de la préhistoire, mais une période dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, cette notion de préhistoire et cette discipline scientifique sont nées vers le milieu du 19e siècle par la conjonction de diverses recherches qui ont été faites parallèlement aussi par des chercheurs qui travaillaient dans des domaines relativement différents. Il y avait d'abord les géologues et les paléontologues. Donc, dans la première moitié du XIXe siècle, il y a eu des grands paléontologues, en particulier le français Georges Cuvier, qui, par des travaux très méthodiques, a montré l'existence de restes d'espèces animales, des vertébrés totalement éteints, puisque Georges Cuvier était un grand spécialiste de l'anatomie comparée. Il connaissait parfaitement les squelettes des animaux actuels. Et quand il découvrait des squelettes d'animaux fossiles, il voyait assez rapidement que ça correspondait à rien de connu. Donc, d'où l'idée d'espèces éteintes. Donc, Cuvier a été un grand précurseur dans ce domaine, bien qu'il ait eu des idées très particulières. C'était ce qu'on appelle un fixiste, c'est-à-dire que pour lui, les espèces animales éteintes avaient été créées comme ça par Dieu et qu'elles n'avaient jamais évolué. Il y a eu aussi la découverte conjointement dès 1842 par Boucher de Crèvecœur de Perthes de silex taillé dans les carrières d'Abbeville, et donc dans des niveaux qui contenaient des restes animaux très anciens, des restes de mammouths, de rhinocéros laineux, d'ours, de grands ours des cavernes, de grands félins, etc. Il a trouvé des outils taillés, des bifaces. Donc effectivement, a priori, les gens qui avaient taillé ces outils étaient contemporains des animaux dont on trouvait les restes. Mais on ne trouvait pas les restes humains, on ne trouvait que les outils taillés. Dans le même temps, parallèlement, il y a eu les travaux de Lamarck en France et de Lubbock en Angleterre qui ont émis l'idée que les espèces animales n'étaient pas fixes, mais qu'elles avaient évolué dans le temps. Donc, c'était une notion qui est très différente de celle de Darwin qui est arrivée après. C'est-à-dire, en fait, Darwin a travaillé à peu près en même temps et il s'est décidé très tardivement à publier son ouvrage sur l'origine des espèces en 1859 parce qu'il craignait d'être doublé par un concurrent. Mais il aurait pu publier ça 20 ans plus tôt, sa théorie était tout à fait mise au point. Donc, pour Darwin, qui travaillait sur la sélection artificielle, il travaillait sur la sélection des plantes et des animaux pratiquée par l'homme pour obtenir certains végétaux d'une certaine qualité ou certaines espèces animales, des chevaux, des chiens, etc., par la sélection artificielle. Et il s'est très vite rendu compte que pour une certaine espèce qui était plus ou moins fixée par sélection artificielle, dès qu'on arrêtait d'entretenir cette sélection artificielle, l'animal revenait petit à petit, au fur et à mesure des descendances, à l'état originel qu'il avait avant d'être sélectionné, d'où l'idée de la sélection naturelle. Et toutes ces théories sont apparues et ont été développées dans la même période conjointement. C'était une grande période de bouillonnement intellectuel extrêmement intense. Mais il y avait un petit problème, parce qu'à l'époque, on considérait quand même que, en Occident, c'était la Bible. Donc Dieu a créé le monde en 7 jours, la dernière créature de Dieu, c'est l'homme. Il y a certains savants qui, en compilant toutes les généalogies qu'on trouve dans la Bible, sont arrivés au calcul que le monde avait été créé 6000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc il y avait d'un côté des conservateurs qui se référaient à la Bible, au texte biblique strictement. Et donc Dieu avait créé l'homme tel qu'il est et les animaux tels qu'ils sont. Et d'un autre côté, il y avait en quelque sorte des progressistes qui, eux, se référaient aux découvertes scientifiques, c'est-à-dire au reste des animaux disparus, au fait qu'il y avait des outils en pierre avec ces espèces éteintes. Et donc, ils en déduisaient scientifiquement et logiquement qu'il y avait eu un homme contemporain de ces espèces éteintes qui avait fabriqué ces outils. Donc, c'est une bataille qui a fait rage très longtemps. Et en France en particulier, il y avait le président de l'Académie des sciences, le comte Élie de Beaumont, qui, jusqu'à sa mort, s'est farouchement opposé à toutes les idées nouvelles concernant, effectivement, l'évolution de l'homme, l'évolution des industries, etc., au point même de bloquer la publication de certaines communications faites à l'Académie des sciences, en particulier des communications faites par Édouard Lartet, dont on va reparler. Donc, la préhistoire, c'est un extraordinaire terrain de jeu, si on peut dire, pour tous ceux qui s'intéressaient au transformisme et à l'évolutionnisme. Ça devient une sorte de laboratoire. Donc, dans cet esprit, on se doit de démontrer que l'homme a évolué, qu'il a fait des progrès culturels, qu'il a fait des progrès intellectuels, et donc de démontrer aussi que l'histoire, puisqu'elle a fait, que l'humanité, puisqu'elle a fait des progrès, c'est qu'elle a une histoire au cours de laquelle elle a évolué. Donc il faut argumenter cette idée. Donc dans les premières années, à partir de 1860-62, c'est en quelque sorte la course à l'échalote, on cherche des preuves pour étayer ça. Et donc on recherche, ben évidemment, des restes humains, ça serait la preuve absolue. Et on cherche bien entendu des objets fabriqués par l'homme qu'on trouve dans des niveaux géologiques les mêmes que ceux dans lesquels on trouve des restes d'espèces éteintes. Donc il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, le mot préhistoire, ça n'existe pas. Et le préhistorien n'existe pas non plus. Il y a des géologues et des paléontologues. puisque la préhistoire n'existe pas. Donc c'est ces gens-là qui, petit à petit, vont faire évoluer les choses. Donc en quelque sorte, c'est tout à fait extraordinaire, parce que la science préhistorique se construit en une dizaine d'années à peine. C'est-à-dire on considère généralement qu'elle commence en 1859 avec la publication du livre de Boucher de Perthes sur les antiquités celtiques et antédiluviennes, ce qui montre bien la mentalité de l'époque, puisque à l'époque, ce qu'on connaissait de plus vieux, c'était ce qui était considéré comme celtique. Et avant les Celtes, on ne connaissait rien. Et il y avait le déluge, et avant le déluge, il y avait le déluge, et après il y avait l'homme, les animaux, etc. Donc c'est Boucher de Perthes qui ouvre la porte, en quelque sorte, en découvrant ces objets dans les carrières d'Abbeville. Et ça se concrétise finalement en 1868 avec la preuve absolue, qui est la découverte du squelette de l'homme de Cro-Magnon, à Cro-Magnon, aux Hésites de Taillac, qui est bien un homme préhistorique enterré au milieu des outils avec lesquels il avait plus ou moins vécu. Il n'était pas tout seul, il y avait une femme et des enfants, donc toute une petite famille. Et c'est à partir de ça, finalement, que la préhistoire va évoluer et se développer, mais les fondamentaux sont acquis dès cette période-là. Les premiers travaux fondateurs, c'est ceux qui ont lieu dans la vallée de la Vézère en 1863. Il y avait eu des fouilles avant, en particulier Édouard Larté avait fouillé en 1860 à Aurignac, en Haute-Garonne, où il avait trouvé des quantités d'outils en silex, d'objets en bois de renne. Et il avait fait à l'époque une observation qui était tombée complètement à la trappe, c'est-à-dire qu'il avait repéré sur des ossements animaux, sur de la faune, des ossements animaux, des traces de découpe par outils en silex. Donc il en avait donc conclu qu'il y avait des hommes qui avaient été là pour découper les os des animaux. Mais c'était trop tôt et c'est pas la première fois, je vous en parlerai d'un autre exemple emblématique tout à l'heure, ça tombait trop tôt et personne n'a relevé. Et donc c'est à partir des années 1863 qu'on s'est mis à chercher systématiquement des preuves de l'existence de l'homme préhistorique, ou de l'homme fossile, comme on disait à l'époque. Le champ de recherche le plus couru, ça a été la vallée de la Vézère, parce qu'on avait déjà signalé, les paléontologues avaient signalé des sites avec des restes d'animaux très nombreux. Donc c'est là qu'en 1863, le marquis Paul de Vibray commence à faire les premières fouilles dans un site absolument extraordinaire qui s'appelle l'Augerie Basse. Vous l'avez ici, une magnifique photo aérienne. Donc c'est un immense abri que vous voyez ici, tout à fait au pied de la falaise, près des petites routes, et la rivière au premier plan, c'est la Vézère. Alors il faut souligner aussi que dans toutes ces périodes-là, tous les acteurs de la préhistoire naissante, de la mise en valeur de la préhistoire, ce sont des amateurs, puisque je l'ai dit, il n'y a pas de préhistorien, on ne sait pas ce que c'est que la préhistoire. Le mot n'a commencé à exister qu'en 1867. Et tous ces gens-là, c'est des amateurs, généralement fortunés, comme le marquis de Vibray, la famille de Vibray, propriétaire toujours du château de Cheverny. Et d'autres intervenants dont je vous parlerai plus tard, c'était tous des amateurs fortunés, très cultivés, qui avaient suivi des études extrêmement poussées, qui étaient passionnés et qui étaient parfaitement compétents, bien qu'amateurs. Et c'est eux, en fait, qui vont faire avancer tout ça, quelquefois contre les scientifiques académiques. Donc en 1863, Paul de Vibray commence à faire les fouilles à l'Augerie Basse. Il y découvre une quantité de matériel, d'outils, des outils en silex par milliers, des objets en os, en bois de renne, de la faune, des restes d'animaux, et cette statuette en ivoire, qu'on appelle la Vénus impudique. Et dès l'époque, il écrit: l'homme enfin se fait révélateur de sa propre existence en reproduisant son image. Donc il avait déjà bien compris, lui il était persuadé, mais scientifiquement ce n'était pas une idée, pour lui c'était une preuve que c'était bien l'homme qui avait fabriqué tous ces outils contemporains des espèces éteintes. Mais là aussi ça venait un petit peu trop tôt et ça n'a pas été repris. La même année, Édouard Lartet et Henri Christie débarquent aussi dans la vallée de la Vélère. Alors Henri Lartet, c'était aussi un amateur fortuné d'une grosse famille du Gers. Il avait fait des études d'avocat, il se destinait au barreau, mais il avait fait aussi des très solides études de géologie. Et il était devenu célèbre parce qu'il a découvert le premier singe fossile, contre l'opinion de Cuvier qui disait qu'il ne peut pas y avoir de singes fossiles parce que les singes, ça a été créé trop récemment par Dieu, donc on ne trouvera jamais de fossiles de singes. Donc Lartet lui a donné tort en trouvant le Pliopithèque à 100 ans dans le Gers. Donc par la suite, Lartet très vite s'est intéressé à la préhistoire puisque je vous l'ai dit, dès 1860, il a fouillé à Aurignac. Et il faisait équipe avec Henri Christie, un Anglais, fortuné, qui était son mécène, mais pas seulement son bailleur de fonds, qui lui aussi était extrêmement compétent, extrêmement érudit, et qui était passionné par ces questions. Donc le tandem Lartet-Christie arrive dans la vallée de la Vézère en 1863, et ils vont faire un travail absolument fabuleux. C'est vrai que maintenant on trouve que les méthodes qu'ils ont utilisées sont un peu expéditives, mais s'ils n'avaient pas travaillé aussi vite, la préhistoire ne serait pas ce qu'elle est maintenant. À la vitesse où on travaille maintenant, il aurait fallu 500 ans pour découvrir ce qu'ils ont trouvé. Donc on peut leur pardonner un peu. Donc ils débarquent aux Aisy, ils commencent par travailler à la grotte des Aisy, dit aussi Abri Richard, où ils découvrent une quantité d'objets, de restes, des outils en silex, toujours pareil, des objets en bois de renne, en os, etc. Ensuite, ils découvrent le site du Moustier, qui a donné son nom à la culture qu'on appelle le moustérien, qui elle est beaucoup plus ancienne puisqu'elle est, elle a pour auteur l'homme de Néandertal. Et le moustérien vient du site de Moustier. Il travaille ensuite encore à Laugerie Basse, à Laugerie Hausse, à Gorge d'Enfer, dans tous ces sites qui sont très proches les uns des autres, dans les environs des Aisy de Taillac, et aussi au grand abri de la Madeleine. Et c'est là. Voilà, ce site absolument magnifique. Donc vous avez le grand abri se situe tout en bas de la photo, près de la rivière, la ligne sombre que vous voyez en bas. Et au-dessus, il y a actuellement un village troglodytique et une superbe chapelle du 15e qu'on voit sur la photo. Mais les préhistoriques habitaient tout en bas, près de la rivière. Et là, en mai 1864, ils trouvent la preuve indiscutable, c'est-à-dire une écaille de défense de mammouth sur laquelle est gravé un mammouth. Et ils font venir des zoologistes, des spécialistes des éléphants, pas des mammouths, parce qu'évidemment, les mammouths, on ne peut pas les étudier vivants, dans la nature, mais quand même, c'est la même famille que les éléphants. Et donc, ils posent la question à plusieurs spécialistes des éléphants qui leur disent et qui écrivent que celui qui a gravé cet éléphant, parce qu'à l'époque on disait indifféremment mammouth ou éléphant, connaissait intimement l'animal parce qu'il l'a gravé dans une position dynamique avec des caractéristiques anatomiques qu'on ne peut pas inventer. Donc c'est indiscutable. On a trouvé la preuve que l'homme préhistorique ou l'homme fossile était contemporain du mammouth, espèce emblématiquement éteinte. Donc, par la suite, depuis, les fouilles n'ont jamais cessé dans la vallée de la Vézère, à tel point qu'actuellement encore, il y a un site aux Aisy de Taillac qui s'appelle l'Abri Pateau, qui est encore en cours de fouille. Et Bruniquel, puisqu'on est censé parler de Bruniquel, et Bruniquel là-dedans. Donc, vous avez ici une vue des quatre abris, qui sont au pied du château, juste en bas, 500 mètres là. Qui sont entrés, je vais vous montrer comment, dans l'histoire de la préhistoire. Alors en fait, les fouilles, le nom de Bruniquel, ça commence avec une grosse erreur, mais ça fait rien, c'est pas grave. Ça commence à la grotte du Courbet, qui actuellement est sur le département du Tarn, et qui doit être à 2 km à vol d'oiseau d'ici, sur la rive droite de l'Aveyron. C'est une grotte qui était connue depuis très longtemps. On sait qu'elle a été utilisée entre 1792 et 1795 pour récolter du salpêtre, pour faire de la poudre à canon pendant la Révolution. En 1838, elle est mentionnée comme caverne à ossements par le paléontologue Marcel de Serres. Par la suite, il y a différents chercheurs de locaux, Caravin Cachin et d'autres, qui signalent aussi la présence d'ossements dans ces grottes. Et en 1862, il y a le chanoine Potier qui commence à y faire les premières fouilles. Et il publie ses résultats à l'occasion du Congrès archéologique de France qui s'est tenu à Rodez et à Albi en 1863. Donc voilà, à l'époque, elle s'appelait la caverne de Bruniquel. Maintenant, on l'appelle la grotte du Courbet, d'où la confusion. Alors, vous avez à droite une photo très ancienne qui montre l'Aveyron. L'entrée de la grotte est à l'extrême droite, c'est le point noir à l'extrême droite de la photo en noir et blanc. En fait, elle n'a pas été cadrée sur l'entrée de la grotte, mais ça donne une idée de ce que c'était. Et la grotte actuellement, c'est une photo que j'ai prise il y a 15 jours, donc... Une très belle grotte, spéléologiquement inintéressante, mais c'est pas grave, il y a l'autre intéressant. Et donc le chanoine Potier écrit à l'occasion de ce congrès archéologique, il décrit rapidement ce qu'il a trouvé, donc des instruments, des silex, etc. Et il explique bien que ça se rapporte à l'âge de la pierre antérieure à l'époque de la pierre polie, donc très très ancien. On connaissait l'âge de la pierre polie, l'âge de la pierre taillée, mais sans plus. Et donc là aussi c'est très intéressant parce qu'il fait référence à cette chronologie très courte de l'histoire de l'humanité en mentionnant qu'on considère voilà, que le monde a 6000 ans. Donc il trouve, lui, que c'est des restes qui doivent correspondre à une époque très 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 ancienne, moins de 6000 ans, puisque le monde a été créé il y a 6000 ans, et que les hommes ont été créés tout à fait à la fin de la création, mais bon, aux alentours de 6000 ans. Par la suite, ça éveille l'intérêt d'un certain nombre de chercheurs, donc qui vont se succéder dans la grotte. En 1863, il y a messieurs Félix Garrigou, Louis Martin et Eugène Trutat, qui viennent faire des fouilles et qui trouvent des choses très intéressantes. Donc ces gens-là, Félix Garrigou, il était ingénieur des mines, Louis Martin aussi, et Eugène Trutat, il était paléontologue. Il a été par la suite directeur du muséum de Toulouse. Donc ils viennent y faire des fouilles et ils découvrent plein de choses qu'ils s'empressent de publier dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Et alors là, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Ce qu'ils trouvent, ils trouvent qu'il y a énormément de restes de rennes. Donc ils écrivent « Le renne est caractéristique de l'âge de la caverne de Bruniquel ». Et à l'époque, l'Arte avait déjà établi une chronologie des époques préhistoriques d'après la faune. Donc pour lui, l'époque la plus récente, c'était l'âge du renne. Donc se référant déjà aux travaux de l'Arte, qu'il connaissait parfaitement, ils en concluent que le matériel trouvé à la grotte du Courbet ou la caverne de Bruniquel se réfère à l'âge du renne. Donc ils décrivent tout ce qu'on retrouve, tous les silex, les charbons, toutes ces traces-là. Et ils découvrent aussi des mâchoires humaines. Donc ils s'empressent de publier ces mâchoires humaines. Ils en trouvent deux, en fait, par la suite, dans la grotte, il y avait une vingtaine de squelettes. Donc, pour eux, la preuve est faite que l'homme est contemporain du renne. Il y avait juste un petit souci. C'est que d'abord, la caverne de Bruniquel, elle n'est pas à Bruniquel, mais à la Perle du Tarn, et que les mâchoires humaines n'étaient pas paléolithiques, elles datent de l'âge du bronze, en fait. Mais cette note a fait un effet extraordinaire, elle a été répercutée pendant des dizaines d'années et jusqu'au milieu du XXe siècle, quand on parle des restes humains de Bruniquel, on fait référence à ceux-là, qui ne sont pas paléolithiques. Mais ça a fait entrer le nom de Bruniquel chez les savants et partout ailleurs, même si c'était une erreur, c'est comme ça que le nom de Bruniquel est entré dans la préhistoire, sur une erreur. Alors, l'histoire de la caverne de Bruniquel, c'est un vrai roman, je vais résumer, mais enfin, c'est assez amusant. En 1863, toujours, il y a une commission d'études mandatée par la Société des sciences, agriculture et belles-lettres de Tarn-et-Garonne, qui est devenue depuis l'Académie de Montauban. Une commission donc qui se transporte à la grotte du Courbet et qui commence à y faire quelques fouilles. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait un certain Victor Brun, dont on va reparler très vite. Le problème, c'est que ces braves gens, pas plus que les Toulousains, n'avaient demandé la permission au propriétaire de la grotte de faire des fouilles sur son terrain. Donc le propriétaire s'est pas fâché, mais enfin il a été très ferme et il a mis tout le monde dehors, très poliment mais très fermement. Et ensuite il a fait murer la grotte, il a embauché quelques ouvriers et il a fait exploiter à son propre compte. Il a découvert tout un tas de choses et très vite, il s'est adressé aux autorités scientifiques en envoyant des objets, des comptes rendus, etc. Et donc, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, il y a Milne Edwards, qui était le grand spécialiste à l'époque, et l'Arte, qui font une communication sur ce que le vicomte de Lastic, propriétaire de la grotte, leur avait envoyé. Donc, il voit tout un tas d'objets et ils reconnaissent, ça avait été déjà vu par Potier et par Trutat, mais ils n'avaient pas su interpréter. C'est un os d'oiseau sur lequel sont gravées des têtes animales. Et donc, sur cet os d'oiseau, il y a une tête de cheval et une tête de renne. Donc, ils en concluent, voilà, cette sculpture, quelle qu'en soit la date, ne peut avoir été faite qu'à une époque où les habitants de Bruniquel connaissaient l'animal dont l'un d'eux a fait le portrait. Et donc, par conséquent, c'est aussi une époque antérieure à toutes celles dont l'histoire et les traditions ont conservé le souvenir. Donc, ils considèrent absolument comme une preuve, effectivement, que l'homme a été contemporain du renne. Et et cette publication a lieu exactement au moment où l'Arte et Christie découvrent le mammouth de la Madeleine. Mais on a retenu que le mammouth de la Madeleine, dommage pour nous. Donc la même année, dans deux endroits différents, les œuvres d'art créées par les hommes donnent une preuve irréfutable de la contemporanéité de l'homme et des espèces disparues et, pas accessoirement, mais fondamentalement, de l'existence réelle d'un homme préhistorique. À la suite de cette découverte, le vicomte de Lastic souhaite vendre sa collection au musée impérial de Saint-Germain. Le vicomte de Lastic était un impécunieux chronique. Il a passé toute sa vie, manifestement, à chercher à trouver un peu d'argent pour entretenir ses propriétés. Et donc, il s'adresse évidemment au musée impérial de Saint-Germain, qui, bonne tradition française, constitue un comité, qui était présidé aussi par Milne Edwards. Donc, c'est tout à fait intéressant parce que le rapport émis par ce comité veut bien admettre que ces objets sont très anciens, qu'il y a bien un renne gravé, mais il considère que les conditions géologiques du gisement ne sont pas probantes. C'est-à-dire que les objets ont pu être apportés après le dépôt des restes fossiles. Donc, il décide de ne rien décider. Et ça en reste là. Mais le vicomte de Lastic, qui avait toujours de plus en plus besoin d'argent, il s'adresse au British Museum à Londres, parce que par l'intermédiaire probablement de son épouse, qui était anglaise. Et donc, le British Museum, très intéressé, dépêche sur place son conservateur, qui était paléontologue, il s'appelle Richard Owen. Alors, Richard Owen, personne ne connaît son nom, mais tout le monde connaît les dinosaures, et c'est Richard Owen qui a découvert les dinosaures et qui les a nommés dinosaures. C'était donc pas n'importe qui. Donc, le British Museum dépêche Richard Owen, qui lui se déplace, qui loge chez le vicomte de Lastic dans sa propriété de Salette, près de Saint-Antonin, qui vient se rendre compte sur place de la façon dont les ouvriers travaillaient, et qui se rend compte que les couches ont du mal à être dérangées puisque tout est complètement bloqué par de la calcite. Je suis bien payée pour le savoir, j'y ai fouillé, enfouillé à la massette et au burin, c'est comme du béton. Donc les mélanges entre couches, pas très vraisemblable. Donc Richard Owen est tout à fait persuadé Et dès janvier 1864, la collection entière est achetée par le British Museum. Donc la majeure partie des objets du Courbet sont actuellement au British Museum à Londres. Donc Monsieur Victor Brun, qui avait été gentiment éconduit de la grotte du Courbet en 1863, en décembre 1863, il voulait bien quand même continuer à travailler sur le sujet. Alors Victor Brun, c'était un personnage assez énigmatique. Il a été le premier conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Montauban. C'était lui aussi un personnage qui vivait de ses propriétés agricoles. Il avait des vignes à Montbéton, dans la région de Montauban. Il avait des hectares de blé du côté de Puy-Gaillard de Quercy, par ici. Et donc, il était très occupé aussi pour gérer ses terres et en tirer ses revenus. Mais apparemment, il avait une formation scientifique très poussée, ce qui se voit dans les travaux qu'il a fait par la suite. Donc, quand il était à la grotte du Courbet, il rencontre le curé de Bruniquel, qui s'appelait l'abbé Nonorgue, sur lequel je n'ai pas plus de renseignements, il faudra que je me renseigne plus, qui avait déjà constitué, lui, une belle collection d'objets sur Bruniquel, parce qu'il s'était rendu compte que lors de la construction de la voie ferrée de Montauban à Lexos, l'actuel départemental 115, dans les travaux, dans les talus, il y avait des quantités de silex taillé, d'ossements, etc. Il avait ramassé tout ça. Et donc, il indique à Victor Brun qu'il y a des choses à cet endroit-là. Donc, on voit là, ici, ça doit être à peu près la seule photo que j'ai pu trouver de Victor Brun, et encore, je ne suis même pas sûre que c'est lui. Il était tellement discret qu'on n'a même pas de photo de lui. Donc, Victor Brun va se mettre à travailler à Bruniquel, mais il va explorer aussi toute la vallée de l'Aveyron. Donc, c'est un véritable parallèle avec la vallée de la Vézère. D'ailleurs, pour beaucoup de préhistoriens, la vallée de l'Aveyron a un surnom, on l'appelle la Petite Vézère, tellement c'est riche et tellement il y a des parallèles à faire. Donc Victor Brun commence à travailler aux abris de Bruniquel en bas, près du sous le château, là, juste à côté. En 1864, en février, en 1865, il travaille jusqu'en 1865, plusieurs mois par an, mais pas tout le temps. Il embauche des ouvriers. Qu'il va surveiller aussi, comme tout le monde le faisait à l'époque. Et en 1865, il explore en juillet l'abri des Batuts, qui se trouve un peu plus loin, juste à côté de la grotte du Courbet, un peu plus haut dans la falaise, où il découvre des outils dont on se rend compte immédiatement qu'ils ne sont pas les mêmes que ceux de Bruniquel. Ils se réfèrent à une autre culture qu'on appelle le gravettien ou périgordien, qui est beaucoup plus ancienne, qui remonte à environ entre 28 000 et 25 000 ans. Il entreprend aussi des recherches à l'abri de Fontalès, sur la commune de Saint-Antonin, au mois d'août. Et là, au bout de 15 jours de fouilles, il est obligé de s'interrompre, parce qu'à la suite d'un énorme orage, il y a un éboulement, un véritable glissement de terrain, qui noie son chantier sur 2 mètres à 2 mètres 50 de boue. Et l'éboulement a été tellement énorme, d'ailleurs, qu'il a coupé la voie ferrée. Donc, il n'est plus jamais retourné là. Mais il avait quand même découvert tous ces sites. Donc, dès 1864, il travaille aux abris de Bruniquel. Voilà une photo d'époque qui montre tous les abris. Au premier plan, vous avez Plantade. Vous avez le petit groupe de personnages, vous aviez le gros plan tout à l'heure, avec le roc éboulé. Et le rocher pointu qui dépasse tout à fait au fond, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'abri Montastruc. Donc, il fait part de ses travaux aussi à tous ses collègues. Il était en relation épistolaire avec l'Arte. Il était en relation absolument avec tous les gens qui, comme lui, travaillaient sur la préhistoire à cette époque-là. Apparemment, il connaissait tous les travaux des gens dont je vous ai parlé, les anciens, les précurseurs de la préhistoire, les Anglais comme les Français. Et donc, on trouve comme ça, dans la revue archéologique de 1864, qui est une revue scientifique de très très haut niveau, un commentaire comme ça qui montre bien que les découvertes faites en Tarn-et-Garonne par Monsieur Brun sont absolument identiques à celles qui ont été faites par Messieurs De Vibray, Larté et Christie Ozési. Et à l'époque, on ne fait absolument aucune différence, ni qualitative ni quantitative, entre les deux gisements. On considère que la vallée de la Vézère et la vallée de l'Aveyron, c'est absolument équivalent au point de vue intérêt scientifique. Alors, en 1864, en mai 1864, pendant que Larté et Christie trouvaient leur fameux mammouth à la Madeleine, Victor Brun, lui, trouve un squelette humain dans l'abri dit La Faille, qui est au pied du château. Donc, vous avez ici à gauche une photo qui a été prise à l'époque. C'est une émulsion au charbon de bois faite par un photographe montalbanais. Et il découvre donc ce squelette féminin. À côté de lui, il y avait un squelette d'enfant dont on n'a pas de photo parce qu'il est émietté, il est en très très mauvais état. Et coincé contre la falaise derrière une couche stalagmitique, il découvre un autre crâne humain qu'il fait photographier. Et il envoie la photographie du crâne le mieux conservé à la Société d'anthropologie de Paris. Et là, c'est M. Paul Broca et Franz Prunerbe qui s'occupent de cette affaire. Et sur photo, Prunerbe était plus prudent, mais Paul Broca a une phrase fabuleuse que je ne me lasse pas de répéter. Il est difficile de croire qu'une tête aussi pure, avec des formes aussi adoucies, ait appartenu à un individu vivant de la vie brutale et violente des sauvages. C'est l'idée qu'on se faisait à l'époque de l'homme préhistorique. Et c'est la raison, une des raisons pour lesquelles, à la suite de cet article, la pauvre dame de Bruniquel, elle a été enterrée une deuxième fois. On n'en a plus jamais parlé. Alors que c'était vraiment les restes humains paléolithiques, vrais, et non pas ceux qui avaient été trouvés par Martin, Truta et Garrigou à la grotte du Courbet. Donc cette pauvre dame, elle retombe dans l'oubli total. Elle est stockée dans une caisse au muséum de Montauban. Et dans les années 1950, Marcel Guéret, qui était alors conservateur du muséum de Montauban, reprend l'étude de ce squelette, l'étudie très sérieusement, fait des analyses sur le sédiment, compare les sédiments avec ceux qu'il y a sur le site, en conclut que c'est les mêmes, et donc en conclut à l'authenticité paléolithique du squelette. Et en 1952, il y a l'abbé Breuil qui vient faire un tour ici pour, dans la vallée pour authentifier les Vénus de la grotte de la Magdeleine. Et Marcel Guéret et son équipe du muséum de Montauban invitent Breuil. Et on voit ici Breuil penché sur le squelette de la femme tel qu'il était présenté à l'époque au muséum de Montauban. Et il l'authentifie. Pour lui, il n'y a pas de doute, ce squelette est bien paléolithique. Donc Marcel Guéret publie un article en 1953 ou à l'occasion d'un congrès savant. Et par la suite, il y a des anthropologues très sérieux comme Madame Genet Varcin qui font toute une étude aussi très poussée du crâne, du squelette, etc., qui l'étudie en considérant absolument qu'il est paléolithique, qu'il n'y a pas de problème. Alors c'est assez amusant parce que le squelette avait été reconstitué à peu près dans l'état où il est là, mais en se basant, c'était pratiquement une copie du squelette de Chancelade, ça se voit dans les études, et donc il a été reconstitué d'une façon qui n'est pas très exacte. Et donc c'est très amusant, dans l'article de Genet Varcin, elle donne les mesures très précises des orbites, elles sont basses, rectangulaires, obliques, celle de droite mesure tant de millimètres sur tant de millimètres, celle de gauche est un peu asymétrique, et pour cause, dans les années 80, j'ai réétudié ce crâne avec une anthropologue qui s'appelle Dominique Gambier, et on l'a fait démaquiller, c'est-à-dire qu'on a enlevé toute la patine qui avait été posée sur la reconstitution. Et évidemment, les deux orbites ne pouvaient pas être semblables, il y en a une qui est toute en plâtre. Mais bon. Et donc, on a un peu restauré ça pour essayer de le remettre dans le plus près de son état original. Donc voilà l'état. Et en 1995, j'ai fait faire une datation directe par le carbone 14, par accélérateur de particules, directement sur une vertèbre qui était restée dans un bloc qui n'avait été jamais au contact avec l'air, donc c'est relativement fiable. Et on a une date de 15290, plus ou moins 150, avant le présent, BP, before present, ce qui veut dire en gros que ça fait 13200 avant notre ère. Et donc une belle revanche aussi, parce qu'actuellement on considère que ce squelette est le squelette magdalénien le plus complet et le mieux daté de France, parce que je crois que c'est le seul squelette paléolithique en France qui a été daté directement. Donc belle revanche quand même pour Victor Brun. Les recherches dans la vallée de l'Aveyron, ça continue encore pendant un petit moment, pas longtemps. Alors, Victor Brun a travaillé très peu. Il a travaillé en 1864 et 1865, donc à Bruniquel et dans la vallée de l'Aveyron. En 1866, il a fouillé quelques dolmens du côté de Saint-Antonin. Et après, il a totalement arrêté toute activité scientifique. Il a donné deux publications, enfin une qui a été reprise ensuite pratiquement sous la même forme. Et il a tout arrêté. Donc je n'ai jamais réussi à savoir pourquoi. Je sais qu'apparemment qu'il avait des ennuis de santé. Et il est possible aussi que le fait que les anthropologues aient refusé l'authenticité du squelette féminin, ça l'a peut-être un peu dégoûté aussi. C'est pas impossible. Mais enfin, il arrête tout. En 1866, il arrête tout. Et en 1866, il y a un autre chercheur qui prend la relève, qui s'appelait Picado de Lille, qui était ingénieur au chemin de fer d'Orléans, laquelle compagnie était propriétaire de la voie ferrée, qui à l'époque était à la place de la départementale 115. Et donc, monsieur Picado de Lille fouille la brigue qu'on appelle maintenant Montastruc, où il trouve aussi, ben, comme partout ici, des milliers d'outils en silex, des centaines d'objets en bois de renne, de la faune à ne pas savoir, et trois objets absolument exceptionnels. Donc voilà, ça c'est les dessins qu'il a donnés dès 1867. Donc il y a un propulseur en forme de mammouth sculpté dans une palme de renne, et deux rennes en ivoire. En fait, les deux rennes, ils se raccordent l'un à l'autre, ils forment un seul objet, et c'est l'abbé Breuil en 1907 qui a compris que ces deux objets se raccordaient. Et immédiatement, évidemment, vu leur qualité, ces objets sont devenus extrêmement célèbres. Donc dans une publication de l'époque, voilà, le squelette mammouth, en bas les deux rennes, au milieu un propulseur extraordinairement célèbre qui a été trouvé à Laugerie Basse, et de chaque côté du mammouth, en haut, les deux faces d'un objet qui vient d'un site de Suisse, contemporain du Magdalénien aussi. Donc dès le 19e siècle, ces objets sont déjà très populaires. Je dis populaires parce que ces publications ne sont pas seulement des publications réservées aux spécialistes. C'est vulgarisé dans des revues, par exemple, qui seraient vulgarisées à un certain niveau, dans des revues qui seraient par exemple l'équivalent d'archéologiens ou de la recherche ou de pour la science actuellement. Donc vraiment pour le grand public. Donc voilà des photos de ces objets. Donc il y a des moulages ici dans la salle de préhistoire du château qui sont absolument exceptionnels. Alors je vous une petite anecdote. Le mammouth là, c'est un propulseur, il y a un crochet. Donc on voit un petit crochet sur le dos de l'animal. Mais à l'origine c'était la queue retroussée de l'animal qui servait de crochet. On voit qu'elle est cassée. Et la cassure date de l'époque. Et à l'époque, on a creusé un trou dans le dos de l'animal pour rajouter un crochet. Bricolage d'époque, probablement le plus vieux bricolage connu de l'humanité. Donc toutes ces découvertes sont rendues très très populaires très vite. En particulier, il y a quelqu'un qui s'active à rendre accessible au public toutes ces découvertes, pas seulement sur le paléolithique, mais sur d'autres périodes, c'est Émile Cartaillac, toulousain, qui prend la direction d'une revue qui s'appelle « Les matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme ». C'est aussi tout un programme. Et donc, il y a dedans des dizaines d'articles qui se réfèrent à Bruniquel, aux travaux de Victor Brun et aux travaux de Picado de Lille. Et donc, à une certaine époque, c'est aussi célèbre que les sites de la Vézère. Autre chose, cette fameuse photo où on voit au premier plan l'abri Plantade, l'abri Lafaille, l'abri Montastruc au fond. À l'époque, on ne savait pas reproduire des photos dans les livres ou dans les journaux. Donc, on allait chercher des graveurs qui, d'après photo, faisaient des gravures qu'on imprimait. Et cette gravure que vous avez sur la droite, qui reprend exactement la photographie que vous avez à gauche avec une interprétation. L'artiste a évidemment enlevé la voie ferrée parce que au paléolithique, il n'y avait pas de voie ferrée. Il a mis un beau feu flambant, c'est très romantique. Et cette image ne va pas faire le tour du monde, mais presque, on la trouve pratiquement dans toutes les publications de vulgarisation à partir des années 1880. Elle est figure partout. Et donc, c'est le rocher de Bruniquel, les abritants de Bruniquel. Et la consécration, pour la préhistoire en général et pour Bruniquel en particulier, arrive la même année, 1867, avec l'exposition universelle à Paris. Donc c'était une exposition, un truc énorme, vous voyez, au Champ de Mars, avec un grand bâtiment en forme d'ovale. Et il y a une section qui a été imposée par Mortillet et Larté. Ça s'appelle Histoire du travail. Et il y a une section sur la Gaule avant l'usage des métaux. Et donc là, on présente des centaines d'objets qui sont classés par ordre chronologique, depuis les biphases de Boucher de Perthes, d'autres objets trouvés dans le centre de la France, dans la Vienne, etc. Et il y a toute une section qui est consacrée aux découvertes de Bruniquel. Donc, par exemple, on sait qu'il y a 39 cartons d'objets des fouilles de Victor Brun. Donc, c'était des petits cartons. Ils sont encore au muséum de Montauban, les objets ont été enlevés, mais ils en sont encore. Des petits cartons de garni de velours vert sur lesquels les objets étaient fixés avec un fil de cuivre. Donc, 39 cartons, ça faisait plusieurs centaines de pièces. On y voit aussi le fameux bâton percé au félin que je vous montrerai tout à l'heure, qui est une des plus belles pièces, parce qu'il y en a d'autres hein, aussi belles, mais qui n'avaient probablement été pas trop bien repérées à l'époque. Des nombreux objets des fouilles de Picado de Lille, et bien entendu en particulier les deux plus beaux objets que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc les plus beaux objets d'art de Bruniquel à l'exposition universelle, les voilà. Le bâton percé au félin, le fameux propulseur mammouth et les rennes se suivant en ivoire de mammouth. Et tout ça à côté des objets venant de la vallée de la Vézère et présentés absolument à égalité. C'était considéré effectivement comme des choses d'égale importance. Alors les organisateurs de cette section Triomphe, ils donnent tout un rapport sur leur travail, sur l'histoire du travail, la Gaule avant l'usage des métaux, la contemporanéité de l'homme et des dernières espèces animales éteintes, etc., sont irrévocablement prouvés par la découverte de produits de l'industrie humaine. Donc là, et c'est à cette époque-là d'ailleurs que le mot préhistoire est introduit après des discussions entre scientifiques. Donc, pour les organisateurs, c'est un très grand succès, et c'est un très grand succès populaire, et c'est à partir de là, vraiment, que la préhistoire va entrer pratiquement dans la vie quotidienne de tout le monde, avec en traitant les gens de Cro-Magnon, ou en parlant préhistorique, etc. Ça, déjà à l'époque. Et donc, cette phrase magnifique qui montre bien la satisfaction des organisateurs, c'est la première fois que les temps préhistoriques se manifestent d'une manière solennelle et générale. Eh bien, cette manifestation a été pour eux un triomphe complet. Et donc en 1868, la découverte de l'homme de Cro-Magnon, c'est la cerise sur le gâteau. Ça prouve de façon absolument définitive que il y a eu un homme fossile qui a été contemporain des espèces disparues, qui a fabriqué des objets, qui avait un art, qui avait une culture, et qui, depuis les outils plus frustes comme les bifaces, a évolué dans le temps. Donc ça, c'est dès 1868, c'est acquis. Et tout ce qui s'est passé après, finalement, ça n'a été qu'un développement, d'autres façons d'affiner toutes les connaissances qu'on a, éventuellement d'en revoir quelques-unes, mais à la base, déjà, tout était déjà plié, si on peut dire, familièrement, en 1868. Alors, dans la vallée de la Vézère, les fouilles n'ont jamais cessé, je vous ai dit qu'elles continuaient encore aux Égides Taillac. Mais dans la vallée de l'Aveyron, après les interventions, les dernières fouilles de Pécado, il s'est plus rien passé. Alors Pécado était un amateur, il n'était pas spécialement cultivé ni intéressé, donc il n'a pas poursuivi. Victor Brun, il n'a pas poursuivi, on ne sait pas trop pour quelles raisons. Et c'est vrai que les travaux de la vallée de la Vézère ont été beaucoup plus poursuivis, beaucoup plus connus, etc. aussi parce qu'ils avaient été effectués par des C'était des grands amateurs, mais qui pour la plupart étaient devenus après des universitaires, donc qui avaient un enseignement, et donc qui ont formé des élèves, des étudiants et des émules. Donc, toutes ces personnes ont continué les travaux de leur maître, tandis que ça n'a jamais eu lieu, malheureusement, dans la vallée de l'Aveyron. Et ça a cessé pendant 60 ans. Ça a repris quand même un peu, on va en parler, parce que il y a eu quand même des résultats importants après, même si très épisodiques. Les premières recherches reprises après, donc ça s'est passé entre 1929 et 1996, et depuis, ben, il n'y a plus grand-chose non plus. Mais ça peut peut-être changer, on peut espérer. Et donc en 1929, il y a Marc Chaillot, qui était conservateur aussi du Muséum d'Histoire Naturelle de Montauban, qui voulait faire comme Victor Brun, c'est-à-dire qu'il voulait fouiller pour enrichir les collections du musée. Ces gens-là ne faisaient pas ça pour eux, à part le vicomte de Lastic, mais lui, c'était comme ça. Ils faisaient ça pour la science. Ils n'ont jamais cherché à tirer profit des découvertes qu'ils avaient faites. Ils les ont données dans des musées, sauf exception rarissime. Donc, il commence des fouilles dans un abri que n'avait pas vu ni Victor Brun, ni Pécadeau, qui se trouve entre l'abri La Faille et l'abri Montastruc. Et donc, il commence des fouilles, il trouve tout un tas de choses très intéressantes, et on s'aperçoit très vite aussi que ça ne correspondait pas du tout aux mêmes périodes d'occupation que les abris voisins. Les abris voisins se situent dans le Magdalénien moyen et supérieur, c'est-à-dire en gros, on va dire, entre 13 000 et 10 000 avant notre ère. Et ça, là, il y a des objets qui sont différents. En particulier, c'est l'absence d'un objet qu'on appelle le harpon, qui est typique du Magdalénien supérieur, qui n'existe pas à Gandil, qui montre que ce n'était pas de la même époque. Alors, j'ai repris les fouilles en 87 jusqu'en 96. Là, je ne suis pas sur la photo, ne me cherchez pas. Et donc, on a trouvé des choses très, très intéressantes, rien de très spectaculaire. Si, quelques pierres gravées avec des animaux qui sont très belles, mais infotographiables, comme souvent pour cette époque. Et surtout, on a pu caractériser cette industrie, cet ensemble d'outils en silex et d'outils en bois de renne qu'on n'avait pas su caractériser jusqu'à présent. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il n'y avait pas de comparaison. Les seules comparaisons, on les trouve en Espagne. Et donc actuellement, le site de la Brigantine, c'est le site de référence pour ce qu'on appelle le Magdalénien inférieur français. C'est celui-là qui fait référence pour cette période. À Fontalès, après les fouilles de Victor Brun, il y a Paul Darras, qui était instituteur, qui a repris. Donc on le voit ici, dans sa tranchée. Là, c'est le monsieur avec le chapeau et les lunettes. Donc il a fouillé assez longtemps. Il a commencé vers 1936, il s'est arrêté pendant la guerre. Et ensuite, il a continué jusqu'en 1960. Donc il a fait des découvertes extraordinaires. Il y a des milliers d'outils, des centaines d'objets ornés, des choses comme ça. Gerhard Bosinski les connaît mieux que moi parce qu'il les étudie. Et c'était un site absolument extraordinaire. L'abri Montastruc, fouillé par Pécadeau de Lille, les fouilles ont été reprises en 1947, puis en 1956-57 par Bernard Bétirac, qui n'était pas un spécialiste non plus, lui était assureur de métier, mais fasciné par la préhistoire. Et donc, il a fouillé une première campagne de fouilles entre 1946 et 1947. Il était suivi par l'abbé Breuil, suivi par Denis Perroni, par des préhistoriens très, très réputés qui l'encourageaient et qui le suivaient. Donc, il a repris en 1956-1957, mais la dernière fouille, il n'a jamais publié. Il est mort très vite après, il est mort en 1959, je crois. Mais il a découvert ça. Cette chose fabuleuse qui est la fameuse baguette au cheval sautant. Donc celle-là, elle n'est pas en Angleterre, elle est en France, elle est à Paris, elle est au musée national, elle est au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Et donc cet objet, les rennes se suivant et le propulseur mammouth, ils sont généralement considérés par les préhistoriens et les spécialistes comme parmi les plus beaux objets d'art que le paléolithique ait jamais donné. Et parmi tous ces plus beaux objets, les 10 ou 15, et encore, les trois, il y en a trois qui viennent d'ici. L'abri des Battus, qui avait été exploré par Victor Brun, a été repris par Jean-François Allot entre 1967 et 1972. J'ai pas de photo. Qui a découvert des choses, que c'était bien un gravettien final à Buren-Noailles, qui avait un niveau d'Aurignacien beaucoup plus ancien, donc il a beaucoup fait avancer sur ce domaine. Et à la grotte du Courbet, j'avais repris aussi en 85 et 86, parce que la grotte, il y avait des fouilles clandestines. Et sous le gros bloc à l'entrée, il y avait cette chose qui est la Vénus du Courbet, une statuette féminine en grès. Donc l'allumette donne l'échelle. Elle mesure 2 cm de haut, elle est plutôt bien datée. Elle date, elle est aux alentours de entre 14 000 et 13 000 avant le présent. Et donc à Bruniquel, les recherches fondatrices n'ont duré que 3 ans, de 1864 à 1866. Mais ces 3 années ont suffi pour faire entrer Bruniquel dans l'histoire de la préhistoire. Et c'est dommage que Bruniquel soit actuellement si oublié, mais j'espère avec votre aide qu'on va arriver à y remédier. Je vous remercie de votre attention. Et donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions à poser, s'il y a des choses qui nous ont paru assez claires, ou si je peux essayer de vous renseigner sur certains points, ça sera avec le plus grand plaisir.
J'aimerais savoir la date exacte des bisons qui sont reproduits donc sur la grotte des Mérières.
Alors c'est un gros problème parce que comme ils sont tracés avec du manganèse, ça n'est pas datable. Par le carbone 14, on ne peut dater que des matières organiques.
J'avais emprunté donc à la bibliothèque de Moricou, il paraît de même période que la grotte Chauvet, donc
c'est manifestement moins ancien, mais on pense que ça remonte au Gravettien, c'est-à-dire contemporain de l'abri des Battus, c'est-à-dire en gros entre 28 000 et 25 000. Voilà. Mais on n'a pas de preuve absolue, d'autant plus qu'il n'y avait pas de matériel, il n'y a rien dans le sol de la grotte. Et c'est uniquement par le style, on peut supposer, mais on n'a aucune preuve.
En attendant que d'autres questions émergent, ce que je tiens à dire, c'est que, comme l'a souligné très, très justement, très clairement Madame Ladier, c'est que Bruniquel est un centre préhistorique connu des spécialistes, mais pas encore du grand public. Donc ce que je peux vous dire, c'est que la municipalité, grâce à l'énergie de son maire, hein, de Michel Monté, a investi dans une salle d'interprétation, dans un chemin également d'interprétation de la préhistoire qui relie un certain nombre de sites et que je vous invite à faire d'ailleurs parce que il est balisé, il est très bien documenté par un certain nombre de panneaux explicatifs, didactiques qui permettent de comprendre ce qui se passait sur les sites. On a appris à communiquer parce que comme l'a très bien dit encore Madame Ladier, le squelette de la dame de Bruniquel est le premier squelette humain trouvé et qui plus est c'est un squelette féminin. Donc à partir de maintenant, quand vous entendrez parler du squelette de Bruniquel, vous entendrez parler de la première dame de France. Voilà. Alors un petit peu d'humour, ça fait pas de mal, mais ça fait du buzz et je pense que le premier article qui va sortir, c'est dans le guide du Routard en particulier, où la première dame de France aura sa place. Et ce qui peut laisser augurer, soupçonner, on ne sait jamais, que le président de la République vienne inaugurer, en fait, bientôt. On verra bien. Je sais qu'il y en a certains qui sont à la recherche de première dame de France. On en a une. Voilà. Donc.
Alors, on pourrait parler de l'énorme bouquin qui va sortir sur les fouilles d'Abrigandille, mais ça va être un truc assez gigantesque, et ce serait intéressant de faire un petit, pas un abrégé, enfin un petit fascicule à l'usage du grand public. Ça serait intéressant.
Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Louis Coubès, là il se trouve, je l'ai pas dit, mais bon, que le résultat des 9 campagnes de fouilles que j'ai faites à la Brigandille est sous presse chez l'imprimeur et ça sortira fin de mois. Donc c'est un travail qui a pris beaucoup de temps. Je vous ai dit brièvement parce qu'en fait, au départ, on ne connaissait absolument pas cette industrie, on ne savait pas ce que c'était. En France, il n'y avait aucune comparaison. Il a fallu aller voir du côté des Cantabres pour trouver à la fois un outillage en silex, une façon de tailler le silex, et aussi dans les objets en bois de renne, les armatures de sagaie, etc., des comparaisons valables, quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement maintenant, après une étude très approfondie faite par des spécialistes, il y a eu 12 spécialistes qui ont participé à la monographie. Donc sur la géologie, la sédimentologie, l'archéozoologie, c'est-à-dire l'étude des restes animaux, quelles espèces animales ont été chassées, dans quelles proportions, combien dans chaque niveau, etc. Les datations, et puis aussi toute l'étude de l'outillage en silex, l'origine des matières premières utilisées, il y en a certaines qui viennent de très loin, de plus de 200 km à vol d'oiseau. Et puis l'étude aussi de tous les outils, instruments, etc. en os et en bois de renne, qui sont très nombreux, il y en a plus de 300. Et puis aussi les œuvres d'art qui ont été trouvées. Donc en particulier, il y a une quinzaine de ce qu'on appelle des plaquettes. En fait, c'est des cailloux sur lesquels on a gravé des choses, soit des motifs qui représentent rien, soit des animaux qui quelquefois sont très jolis mais très difficiles à lire. Donc tout ça, il a fallu presque 30 ans pour en venir à bout. Mais ça va enfin sortir fin de mois, début de mois prochain ou plus tard. Donc ça sera à disposition du grand public. C'est l'association Préhistoire du Sud-Ouest, dont j'ai le grand honneur d'être la présidente, qui publie ça. Et je pense qu'il y en aura quelques exemplaires en vente ici à Bruniquel pour ceux que ça intéresse.
La grotte de la pyramide et l'autre grotte qui sont sous ce qu'on appelle le travers de Janoï, où il y a des bouquetins qui sont... C'est contemporain aux autres découvertes.
La grotte de la pyramide, en fait, c'était plutôt un habitat qui a été occupé, à ma connaissance, depuis le néolithique moyen, c'est-à-dire une culture qui s'appelle le Chasséen, aux alentours de 4000 avant, jusqu'à l'âge du bronze moyen, vers 1500 avant. Donc c'est beaucoup plus récent. En revanche, la grotte du travers de Janoï est une grotte ornée avec des bouquetins au fond. Et là aussi, on n'a aucune façon de les dater. Mais d'après le style, on pense que c'est contemporain des bisons de la grotte Mérière, donc très ancien. Que ça daterait effectivement probablement du Gravettien.
Donc on s'en tient aux dates d'une vingtaine, enfin 20 000 ans.
À peu près, voilà. 25 000
ans.
Voilà. En revanche, il y a une autre grotte ornée, c'est les grottes ornées, Gérard Bozitsky va vous en parler bientôt, des grottes ornées de la vallée de l'Aveyron. Et donc, il y a la grotte de la Magdeleine, qui est absolument extraordinaire, qui n'est pas visitable. Les autres non plus, d'ailleurs, elles sont trop difficiles d'accès, qui est unique au monde, parce qu'il y a deux représentations de femmes couchées. L'abbé Breuil les avait surnommées les dames récamiers de la préhistoire. Et donc celles-là ne sont pas datables directement parce qu'elles sont en bas-relief, sculptées, mais on connaît d'autres grottes avec des sculptures en bas-relief, des représentations de femmes en bas-relief qui ne sont pas dans la même attitude, mais quand même, et ça, on sait qu'elles sont du Magdalénien moyen, c'est-à-dire aux alentours de 15 000 avant le présent, et en fait, elles sont, on va dire, contemporaines de la femme qui a été trouvée à l'abri la faille, pour se situer un peu dans le temps, quoi.
Voilà, je posais la question de savoir si on avait une idée du climat. Je pense que ça va être un climat froid, puisque on parle de mammouth et de rennes. Et quelle était la végétation? Est-ce qu'on a pu analyser à partir des pollens l'environnement végétal de la région à cette époque? Enfin, c'est différent.
Alors, pour l'environnement animal, évidemment, avec tous les restes qui ont été trouvés dans les habitats, on a des idées très précises. Alors, sachant quand même que entre la grotte des Batus aux alentours de 25 000 et avant le présent et les niveaux les plus récents, par exemple de l'abri plantade, qui sont de 12 500 12 700, ça fait quand même un grand écart chronologique, mais on est toujours dans une période glaciaire, donc effectivement on sait que le climat était très froid, d'ailleurs on a la preuve par la faune. Donc on n'a pas de reste de mammouth directement dans les sites archéologiques de la vallée de l'Aveyron. On a des représentations de mammouth, donc on en avait une très belle, Et ce qu'on retrouve est essentiellement dans ce qu'on appelle la faune chassée, parce qu'on on ne maîtrise en réalité que la faune chassée, c'est-à-dire les restes des animaux que les hommes ont chassés. Et donc, au Magdalénien, par exemple, pour la période la plus récente, celle qui correspond aux abris du château, ça couvre quand même 5 à 6 millénaires, hein, le Magdalénien. Mais c'était toujours en période glaciaire, il y a eu quelques fluctuations climatiques, des petits réchauffements, etc. Mais en gros, c'était en période glaciaire. Et donc, l'animal le plus chassé, c'est le renne, en énorme majorité, 90-95%. Il y avait le cheval, il y avait des grands troupeaux de chevaux sauvages, il y avait des aurochs, des bœufs sauvages, des bisons. Et en raison de la configuration des sites, qui sont très, très rocheux, il y avait aussi énormément de bouquetins et de chamois. Donc ça, c'est l'essentiel de la faune chassée. Alors on rencontre aussi sur certains sites à l'abri de la faille, un peu, qui correspondent plutôt à des périodes un peu anciennes, quoique en ce moment les spécialistes ne soient pas d'accord, les restes d'un animal qui n'existe plus sous nos contrées, qui ne vit plus maintenant que dans les steppes d'Asie centrale, qui s'appelle l'antilope saïga, qui ne vit que dans des climats très froids et dans des environnements steppiques. Pour la végétation, c'est beaucoup plus difficile, parce que malheureusement, les seules fouilles récentes, c'est celles que j'ai faites à la Brigandine, et le sédiment ne se prête absolument pas à la conservation des pollens. Donc on n'a pas pu faire d'analyse pollinique, et donc on n'a malheureusement pas de témoignage direct de la flore de l'époque.
Alors, juste avant de clore cette soirée, de remercier Edmé pour son intervention, préciser que Gerhard Bozinski, qui est présent ici, interviendra samedi 26 à Saint-Antonin à 18h sur les grottes ornées de la vallée de l'Aveyron. Il reviendra à Bruniquel, à la salle d'apparat, le 11 août, pour nous parler de l'évolution culturelle de l'humanité des origines jusqu'au néolithique. Et Edmé reviendra en fin octobre pour parler du Magdalénien dans la vallée de l'Aveyron. Voilà, vous avez les programmes à la sortie si vous le souhaitez.
Très bien. Merci. Donc, moi, il me reste encore aussi, au nom de vous tous, de remercier Edmé pour son excellente présentation didactique, très claire, en fait, et qui donne... beaucoup d'espoir sur un projet que l'on a, qu'on a commencé à initialiser il y a déjà quelques années, de faire en fait de Bruniquel, en fait de redonner ses vraies lettres à Bruniquel sans vouloir dépasser les autres. Hein. Il n'est pas question de rentrer en concurrence, mais de montrer en fait que le passé de Bruniquel a compté dans l'histoire de la science et de la préhistoire en particulier. Donc en fait, on a monté un conseil scientifique, mais on est la présidente, mais il y a Gerhard également, qui est membre du conseil scientifique. Il y a Louis, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est membre du conseil scientifique également. Donc il y a une dynamique qui est lancée, et cette dynamique-là, elle ne sera efficace qu'avec votre aide. Donc en fait, si on a la chance de vous revoir aux trois autres conférences du cycle, eh bien on en sera très heureux, ça c'est sûr. Et puis aussi, on organisera, si Yann est d'accord, en fait, une signature de son livre, hein, ici, dans cette salle-là, dès que ça sera possible, on va parler peut-être du début de l'automne. Hein, et là, ça sera l'occasion de reparler de la préhistoire, de reparler de la préhistoire ici, avec peut-être d'autres thématiques, parce que Dieu sait si c'est vaste. Voilà, donc merci beaucoup, Edmé. Je me suis régalé, je suppose que vous aussi. Et pour terminer cette soirée-là, je vous propose un petit pot à la sortie que l'on peut partager et continuer à poser des questions si cela vous chante naturellement. Merci à vous d'être venus si nombreux, d'être restés là, et à très bientôt.